Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec, qui vous rappelle que certaines incapacités donnent droit à des mesures fiscales. Renseignez-vous.
Sans détour, avec Élisane Pellerin.
Bonjour, cette semaine à Sans Détour, on commence l'émission avec Adèle Yann Enbo-Emkin Hancock de Moinpignard, Québec, pour nous parler de la nouvelle politique nationale de soutien à domicile annoncée par le gouvernement du Québec. On continue l'émission avec Priscilla Ménard et Karine Auclair, professionnelles pour l'Institut universitaire en DITSA. Et on va terminer l'émission avec Alain Baudouin, DG de Apogea, sur sa nouvelle collaboration avec SPVM. Bonne émission tout le monde! On rejoint tout de suite Adèle Ngo-Emkin Hancock de Moinpignard, Québec. Bonjour Adèle.
Bonjour Madame Pellerin.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Et vous-même?
Ça va très bien, merci. On a fait appel à vous chez Moinpignard, Québec parce que vous avez publié un article pour critiquer la nouvelle politique nationale de soutien à domicile qui a été annoncée il y a quelques jours par le gouvernement du Québec.
Oui.
Mm-hmm. Qu'avez-vous penché chez Moinpignard Québec de cette nouvelle politique?
Bon, à première vue, au moment de l'annonce, comme d'habitude avec ce gouvernement, on n'a pas vu et on n'a pas entendu parler des personnes en situation de handicap. Donc, on s'est vu encore une fois de plus invisibilisé par ce gouvernement-là. Ça ne coûtait pas grand-chose de donner, ne fût-ce qu'une phrase concernant cette population. Mais en plus de ça, les augmentations qu'on nous a annoncées sont vraiment dérisoires. On parle d'un 4% d'augmentation pour une mère de besoin en soutien à domicile. Oui. Et encore là, on sait que les personnes en situation de handicap ont réellement des besoins criants. Dans la dernière année et demie, on a plutôt vu des coupures en soutien à domicile, échec emploi-service de l'ordre de 50 à 100% dans certains cas. Alors, quand on nous dit qu'on augmente à 4%, c'est pas grand-chose. On augmente le chèque emploi-service d'$1 quand on sait que tous les coûts explosent et que la main-d'œuvre en CHSLD n'est pas au même coût. Comment on s'attend à ce que les personnes qui doivent faire de la gestion de personnel elles-mêmes puissent être compétitives sur ce marché-là? C'est juste impossible. Donc, on remet un fardeau, un lourd fardeau sur les personnes en situation de handicap qui veulent bien gérer, mais ça sera lourd. C'est déjà lourd pour nos membres qui utilisent, par exemple, le chèque emploi-service.
Oui, ben il y avait déjà un problème. Vous le mentionnez bien. Le chèque emploi-service ne payait pas au dire de plusieurs organismes et au dire de Moinpignard Québec. Et on ne payait pas suffisamment les employés, donc les aides à domicile. C'était pas du tout compétitif. Là, ça équivalait à des salaires qui étaient dérisoires. Ce que ça donne en fait, c'est qu'on a de la difficulté à recruter du personnel qui est compétent et à garder du personnel qui est compétent. Donc ça fait un niveau de roulement qui est extrêmement difficile à gérer pour les personnes en situation de handicap.
Exactement. Alors, donc, non seulement ça, le taux horaire, la subvention qu'on leur donne, qu'on va leur donner $21 de l'heure, et en plus de ça, quand on subit une coupe, par exemple, quelqu'un qui a 16 heures ou 17 heures et qu'on lui dit du jour au lendemain, ah, ben là, vous allez avoir 5 heures par semaine.
Oui.
Comment est-ce qu'on s'attend à ce que la personne garde son employé? Ça va être difficile. Donc, les salaires ne sont pas compétitifs et le nombre d'heures qu'on donne aux gens, je ne dis pas qu'on doit donner des heures comme ça
à n'importe qui.
Mais réellement, il y a une sous-évaluation du nombre d'heures dont les gens ont besoin.
Oui, vous parliez donc d'un problème qui est double. D'un côté, oui. Le salaire n'est pas compétitif, donc c'est difficile de le recruter parce que les gens qui sont formés peuvent aller ailleurs et avoir des meilleurs salaires, bien que dans toute la fonction québécoise, les salaires ne sont pas épouvantables, mais quand même, ils peuvent avoir des meilleurs salaires ailleurs. Et vous dites aussi, il y a fait de couper de plus en plus les heures, ça fait que les employés, d'un côté, pour s'ils font 5, 6, 7 heures par semaine... c'est sûr qu'ils vont chercher à se trouver un emploi où ils peuvent faire plus d'heures parce que c'est pas assez pour eux pour subvenir à leurs propres besoins. Et au-delà de ça, ben il faut parler de la personne en situation de handicap qui, elle, doit se débrouiller avec 5-6 heures par semaine d'aide alors qu'elle a besoin de beaucoup plus. Donc, ça crée effectivement un problème au niveau du respect de la qualité des soins des personnes en situation d'handicap et du respect de leur autonomie au final.
Exactement. Et en plus de ça, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que les services de soutien à domicile aident à prévenir des gros problèmes en amont, des problèmes de santé. Par exemple, moi, l'épinière hémotricité Québec, nous, on s'occupe des personnes qui ont une lésion à la moelle épinière. Et donc, c'est toutes des personnes qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. Donc, quand on est paraplégique, c'est les membres inférieurs et tétraplégiques, c'est les quatre membres qui sont affectés, donc on ne bouge pas. Alors, quand on coupe des soins à des personnes comme ça, ça peut faire en sorte qu'il y a des problèmes qui apparaissent, comme les plaies de pression. Si quelqu'un n'a pas assez d'heures de soutien à domicile, un employé qui vient vérifier des rougeurs, par exemple, on se retrouve avec une plaie de pression et qui peut être vraiment désastreuse pour une personne tétraplégique ou paraplégique. On a vu des cas où ça peut mener des gens à perdre une fesse, à passer 2 années à l'ITER. C'est tout ça en amont qu'il faut regarder. C'est vraiment de la prévention. Et nous, on veut vraiment que l'ensemble des services de soins à domicile soient vraiment assurés par le gouvernement et que ce soit des services universels couverts par le gouvernement, parce que là, on voit que ça glisse vers... J'ai pas envie de dire ici le privé, mais il y a eu une...
Non, mais disons-le, moi je peux le dire. Moi, je peux le dire. Voilà. Ça glisse à le privé.
Il y a un glissement, alors... et là, on ne pourra pas garantir la qualité. Déjà, la qualité aujourd'hui, pour nos membres à nous, les gens ne sont pas toujours formés, par exemple, pour faire un curage intestinal comme il le faut. Parce que ce sont des choses qui, il n'y a pas eu de temps de formation nécessaire. La formation actuelle est accélérée et elle ne voit pas nécessairement ce genre de besoin-là. Or, ce sont des choses dont les personnes ont besoin. Oui. Elles se retrouvent, par exemple, avec une incontinence après avoir eu un soin de curage le matin ou le lendemain, elles vont faire une incontinence, même dans la journée, des fois. Alors ça, c'est des situations humiliantes qui font que les gens ne peuvent pas donner leur plein potentiel à notre société. Pourtant, ce sont des gens qui ont des capacités. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut plus travailler. Non, c'est pas vrai. Plusieurs ont des professions de différents types. On a de tout. On a des ingénieurs, on a des financiers, on a de toutes sortes des gens dans le communautaire. Mais donnons-leur la possibilité de pouvoir appartenir à notre société comme il se doit, en fait, en leur donnant ces moyens-là. Le soutien à domicile permet de te lever le matin, de te préparer, d'aller travailler, de prendre soin de ta famille. Il y en a plusieurs dans nos membres qui ont des jeunes familles, qui ont des enfants. C'est tout ça de s'impliquer dans sa société. On a l'impression qu'à chaque fois, les personnes en situation de handicap doivent quémander. En 2026, au Québec, au Canada, doit-on quémander pour des soins essentiels? Moi, je trouve que c'est aberrant qu'on en soit là.
Oui, vous mentionnez deux choses. En fait, d'un côté, ça coûte plus cher au gouvernement, si on veut parler de l'aspect financier, parce qu'ils doivent par la suite pallier à des complications parce que la prévention n'a pas été faite adéquatement. Donc au final, ça finit par leur coûter coûter plus cher, alors qu'ils veulent, leur but dans tout ça, c'est de réduire les coûts. Donc, d'un côté, c'est manqué. De l'autre côté, vous parlez évidemment des droits des personnes en situation de handicap, qui ont le droit évidemment à des soins et à des services de qualité. Ils ont le droit de participer pleinement à la société. Puis, tu sais, je sais pas si les gens qui ne sont pas dans cette situation-là, qui n'ont pas besoin de l'aide à domicile, comprennent la réalité, mais c'est souvent extrêmement difficile. Ces gens-là se font lever du lit à des heures soit très tôt, parfois très tard. Ils se font coucher parfois très tôt parce qu'on n'a pas d'autres moyens, d'autres disponibilités pour les coucher à une heure qui est décente. Ils vont manger parfois très tard leur repas parce que personne est disponible là, pour aller les faire manger à une heure qui est décente. Donc, c'est vraiment au niveau, vous avez dit, de la dignité humaine où là, on a vraiment des problèmes et ça devient difficile pour ces gens-là, vous l'avez dit aussi, de contribuer au marché du travail, de répondre à leurs engagements professionnels ou familiales parce qu'ils sont toujours en attente et à la merci des horaires de personnes employées qui, malgré le fait qu'ils font leur gros possible, ils débordent. Donc, on coupe dans la qualité des soins puis ça fait en sorte que ces personnes-là, au final, ne reçoivent pas les soins auxquels ils ont le droit. Puis, tu sais, la plupart des gens, je le pense, accepteraient pas de vivre dans des situations comme ça, là, pour ceux dont c'est pas la réalité. Et pourtant, les personnes en situation de handicap sont un peu prises dans cette situation-là. Puis, quand ils font des plaintes et tout ça, on ne les entend pas du côté du gouvernement, là.
On ne les entend pas. Voilà. Alors, c'est effectivement ce que vous avez résumé. Donc, pour nous, en fait, cette politique-là, et nous interpellons, en fait, on entre en année électorale. Interpellons donc tous les partis politiques à faire du soutien à domicile un enjeu dans leurs programmes électoraux, parce que nous, on souhaite avoir et on veut avoir une augmentation significative du financement en matière de soutien à domicile, chèque emploi service. Parce que pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment un élément important. Les personnes qui en ont besoin, là, c'est nécessaire pour ces personnes-là. C'est pas un caprice, c'est nécessaire pour ces personnes. Toute personne, que ce soit un proche aidant ou une personne en situation de handicap qui est au courant, qui utilise ces services, c'est que c'est nécessaire. Donc, c'est pas vraiment un caprice. On doit tout faire pour que ces personnes aient ces soins-là et qu'elles aient le nombre d'heures dont elles en ont besoin. Si elles ont besoin de 24 qu'on leur en donne, si elles ont besoin de 10 qu'on leur en donne et qu'on arrête de venir gratter, de couper ici au nom de la soi-disant équité pour tout le monde. Ben, peut-être que l'autre d'à côté a réellement droit à 5 heures, mais l'autre qui a droit à 24 a réellement droit à ces 24 qu'on les lui donne et qu'on ne dise pas qu'il faut qu'on donne à tous. Parce que, écoutez, quand on coupe 15 minutes à quelqu'un qui a une trachéotomie, à un repas, ben c'est des risques d'étouffement là.
Oui, voilà, il y a des risques qui sont réels là. Donc vous faites bien de le mentionner. L'équité, c'est aussi de respecter les besoins de tout le monde. Donc j'espère que vous serez entendu. Puis merci de votre travail puis d'avoir fait le travail de dénoncer la réalité avec la nouvelle politique nationale d'aide à domicile. En terminant, pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre travail à Moilipinière Québec, où est-ce qu'on peut avoir des informations?
Ben en fait, on a un site internet, n'importe quand vous tapez dans Google Mémo Québec, là l'abréviation, vous tombez sur notre site internet moilipinière.com, donc avec le www et tout ça, vous allez nous trouver. On couvre tout le Québec, donc s'il y a des personnes qui ont une lésion médulaire ou personnes en situation de handicap qui veulent savoir ce qu'on fait, nous on s'occupe de on a un secteur d'employabilité qui couvre rien que la région, la grande région de Montréal, mais les services de défense des droits et intégration sociale, on couvre vraiment tout le Québec. Donc si les gens ont des problèmes de soutien à domicile, ils peuvent s'adresser à moi pour trouver mes coordonnées sur le site internet de Moi, l'étudiant et Motricité Québec. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes donc une agente de Moi, l'épinière Québec. Et comme je le disais tout à l'heure, on espère que ça ira mieux pour vous avec la nouvelle politique nationale et qu'il y aura des modifications pour mieux répondre aux besoins. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Au revoir.
On est de retour et on rejoint Priscilla Ménard et Karine Auquière, qui sont professionnelles à l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
J'ai demandé à vous parler d'abord pour parler des projets évidemment de l'Institut universitaire en DITHA, mais particulièrement par rapport aux outils qui sont disponibles en ligne pour les personnes qui auraient besoin de différents outils pour naviguer avec la déficience intellectuelle ou le trouble du spectre de l'autisme. Pouvez-vous nous parler plus généralement des outils qui sont disponibles en ligne?
Oui, tout à fait. On a plusieurs outils qui sont disponibles sur notre site web. En fait, dans les dernières années, on a développé différents outils. On en a, entre autres, on a développé une formation qui s'adresse aux intervenants pour, dans le fond, savoir comment mieux faire l'éducation à la sexualité. Il y a aussi une capsule savoir-faire là, qui l'accompagne avec des outils complémentaires. Et on a des programmes qui sont disponibles depuis plusieurs années. Là, leur acronyme est EVAS et PESADI. Il y en a un qui s'adresse aux personnes adultes qui ont une déficience intellectuelle modérée et l'autre pour les adolescents qui ont une déficience intellectuelle légère. Et ces programmes-là, bien que toujours utiles, commençaient à être un petit peu plus vieillots sur certaines thématiques dans le sens qu'il manquait peut-être certaines informations. Donc, on a développé 6 fascicules d'éducation à la sexualité sur des thématiques plus actuelles. Je vous donne un exemple. Là, on a celui-là sur la diversité corporelle, sexuelle et de genre et on a aussi celui-là sur la sexualité et la technologie. Donc, le dernier qui est sorti là, tout récemment, en fait, la semaine dernière, c'est celui-là concernant les sentiments amoureux et couple. Donc, ça, c'est un premier jet de nos outils. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça.
Oui. Bien évidemment, là, on parle d'éducation à la sexualité, puis ce qui vous est parfois rapproché, surtout là, j'ai l'impression ces jours-ci avec le climat au Québec, là, où il y a vraiment une polarisation, c'est de dire que l'éducation à la sexualité pour des personnes qui sont vulnérables, donc des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou qui vivent avec l'autisme, ce serait donc de pousser ces gens-là à faire des choix dont ils n'ont pas conscience, donc de les pousser vers, par exemple, à remettre en question leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, et donc leur faire faire ils pousser vers un choix sans vraiment qu'ils en comprennent les implications. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben dans le fond, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on essaie un peu de défaire le vieux mythe hein, qui veut que si on parle d'un sujet à une personne, par exemple autiste ou qui a une déficience intellectuelle, qu'on va lui mettre des idées dans la tête. Ça, c'est un vieux mythe. Hein. Au contraire, de mieux les renseigner, de mieux les informer, c'est au contraire une arme contre la vulnérabilité, dans le fond. Et si on leur donne pas d'information, les personnes vont se tourner vers d'autres sources qui sont peut-être pas toujours fiables pour aller chercher l'information qu'elles veulent avoir. Donc, au contraire, c'est très important d'aborder le sujet, n'importe quel sujet qui touche l'éducation à la sexualité auprès des personnes autistes ou ayant des sciences intellectuelles. Et ce, même si on n'est pas des experts hein, du sujet, ce qu'on veut, c'est vraiment ouvrir le dialogue, pouvoir informer la personne du mieux qu'on peut sur les sujets qui la préoccupent ou qui l'intéressent. On peut se permettre de lui dire parfois qu'on n'a pas toute l'information, qu'on connaît pas toutes les réponses, qu'on va lui revenir avec des informations, mais l'important, c'est vraiment d'ouvrir la conversation avec les personnes sur les sujets qui la préoccupent ou qui l'intéressent.
Parce que vous dites quelque chose d'essentiel ici, c'est-à-dire que ces personnes-là ont des questions, de prime abord. Hein. C'est pas quelque chose qu'on leur met dans la bouche. Ils posent des questions et dans l'optique où on leur répond pas, ben ils vont se tourner vers Internet. Hein. Puis sur Internet, ben il peut y avoir toutes sortes de mauvaises informations qui vont finalement leur nuire plutôt que de leur aider.
Exactement. Nous, c'est vraiment les personnes autistes ou ayant déficience intellectuelle elles-mêmes ou les intervenants ou les proches qui gravitent autour d'elles qui vont nous rapporter les sujets dont elles veulent parler les personnes. Dans le fond, c'est sur ça que nous, on se base pour développer des nouveaux outils pour répondre à un besoin qui nous a été exprimé par les personnes. Donc, les préoccupations et les questions viennent vraiment d'elles-mêmes.
Et on peut aussi défaire un autre mythe, c'est-à-dire que les personnes autistes ou les personnes avec une déficience intellectuelle ne sont pas toujours hétérosexuelles, ne sont pas toujours cisgenres non plus. Donc, à ce moment-là, c'est un peu de mal comprendre leur fonctionnement que de se dire qu'ils sont cisgenres ou hétérosexuels sans se poser la question, finalement, de prétendre savoir ce qu'ils sont, comme s'ils n'avaient pas un genre ou une orientation sexuelle qui peut varier comme des personnes qui sont neurotypiques.
Oui, tout à fait. Puis en fait, nous, on est vraiment dans une optique d'informer les gens. Donc, ce qu'on a développé, par exemple, nos fascicules, vous parlez là, de la diversité. En fait, ce qu'on veut, c'est que les intervenants, les proches des personnes puissent avoir la bonne information, puis aussi avoir des stratégies pour bien informer, bien accompagner la personne, là, soit autiste, soit ayant une déficience intellectuelle, qui aurait des questions à ce propos-là, qui se questionnerait peut-être elle-même sur sa propre identité ou celle, par exemple, d'un ami. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens aient de l'information qui est juste. Puis, tu sais, un coup qu'on a une bonne information, mais après ça, c'est plus facile aussi de prendre ses propres décisions, fait qu'on favorise comme ça l'autodétermination aussi chez nos personnes.
Oui, bien, ça aussi, c'est un élément important. On a souvent l'idée que les personnes qui ont une DI ou qui vivent avec autisme n'ont pas d'autodétermination, donc sont incapables de faire des choix et qu'on doit faire des choix pour eux, alors que c'est faux.
Exactement. En fait, ce qu'on veut, c'est mieux les accompagner, mieux les informer. Puis là-dessus, je ferais peut-être le pont avec d'autres outils qu'on a développés au courant des deux dernières années. C'est les outils en lien avec la santé sexuelle des femmes. Donc, c'est des outils qui visent à mieux informer, pour mieux accompagner aussi nos personnes en lien avec tout ce qui est prévention et dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang, les ITSS, cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Donc, il y a quand même un lien avec la sexualité parce que, dans le fond, il y a des choses au travers de ça, là, des examens médicaux, par exemple, là, qui peuvent être en lien avec les TSS. Puis ce qu'on veut, c'est pas en fait obliger nos personnes autistes ou ayant des déficiences intellectuelles à choisir en fait d'aller obligatoirement se faire dépister ou de prendre telle contraception. Ce qu'on veut, c'est mieux les informer pour qu'elles puissent prendre la décision qui leur convient. Fait que nous, on est vraiment dans cette optique-là d'informer, mieux accompagner.
Est-ce que vous pensez qu'il y a encore l'idée préconçue là, que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui vivent avec l'autisme n'ont pas de vie sexuelle? Non. Est-ce que c'est encore quelque chose que vous voyez souvent, là, des gens qui pensent que finalement la vie sexuelle de ces gens-là n'existe pas?
Mais je pense que de plus en plus, là, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait, mais c'est un mythe qui existe encore, hein, que les personnes autistes ou ayant des déficiences intellectuelles ne sont pas actives sexuellement ou ne sont pas intéressées par la sexualité, qui ne souhaitent pas avoir de l'information au sujet de la sexualité. Donc, c'est justement, plus on va en parler, plus on va consulter les personnes, savoir quels sont leurs besoins sur le terrain et leurs intervenants, bien, c'est comme ça qu'on va défaire ces mythes-là. Donc, nous, on est vraiment là pour supporter un peu ce changement de mentalité-là, justement.
Est-ce que le changement de mentalité, vous sentez, qui est en train de se faire présentement, est-ce que vous voyez vraiment une avancée?
Oui, absolument. Je dirais que souvent, les gens, c'est surtout, moi, ce que j'observe le plus, c'est que les personnes se sentent peu outillées, là, par des proches et des intervenants. Je pense que les gens sont bien sensibilisés, mais ils se sentent peu outillés. Donc, c'est vraiment ce message-là que nous, on veut répéter, qu'on n'a pas besoin d'être un expert de l'éducation à la sexualité pour aborder le sujet avec les personnes. C'est beaucoup plus important d'ouvrir la conversation sur le sujet que d'être un expert. Puis, on a toutes sortes d'outils. Nous, on est là, l'Institut universitaire en DITSA, justement, pour accompagner les intervenants et les proches en mettant à leur disposition toutes sortes d'outils qui peuvent les soutenir dans cette démarche-là.
Et je peux comprendre aussi qu'il y a peut-être un malaise si on n'a jamais fait ça, de savoir comment aborder le sujet. Donc, je pense que vous faites bien d'en parler et d'offrir des outils. Puis j'imagine que c'est une demande là, qui a été faite de la part des usagers à qui vous avez parlé. Là.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que des fois, on a la parole des usagers via leurs intervenants ou leurs proches. Mais eux, c'est ça. Même nos intervenants nous disaient, on n'est pas si à l'aise que ça, même si on a une formation en éducation spécialisée ou en psychoéducation, on n'est pas si à l'aise de parler d'éducation à la sexualité. Fait que c'est pour ça qu'on a développé une formation puis une capsule savoir-faire pour que les intervenants se sentent plus confortables. Puis tu sais, j'ai le goût de revenir aussi sur un message qui est quand même important. L'éducation à la sexualité, oui, tu sais, c'est bien, c'est une arme de prévention. mais c'est une arme de prévention de la violence sexuelle, autant oui. pour nos personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui sont autistes, mais aussi pour qu'elles ne fassent pas des actes qui peuvent être répréhensibles. Parce que des fois, par méconnaissance oui. Certaines normes, de certaines, ils peuvent faire des choses, puis après ça, ils se retrouvent dans le trouble. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on vise vraiment une éducation à la sexualité pour que tout le monde ait des relations saines à l'intérieur de ça.
Vous faites bien en parler, hein? C'est des gens qui sont vulnérables, oui, d'être victimes, mais également de commettre des gestes sans le savoir, des gestes qui sont répréhensibles. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous par rapport à ce sujet-là qui peut paraître tabou, mais je pense qu'il est important, comme vous le dites, il faut bien informer pour éviter certains dérapages. Donc, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis on invite tout le monde à aller consulter nos outils sur notre site web. On a aussi notre Facebook. On a une infolettre pour avoir les nouvelles en primeur à chaque mois. La plupart de nos outils, là, tout ceux-là dont j'ai parlé aujourd'hui, sont gratuits et sont en ligne, donc téléchargeables à même notre site web. Donc, on invite tout le monde à aller les consulter.
Sur le site de l'Institut universitaire en DITSA, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.
Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin.
On continue l'émission avec Alain Baudouin, qui est directeur général chez Apadzian. Bonjour, M. Baudouin.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Très bien, merci.
Je vous ai invité à l'émission, M. Baudouin, particulièrement parce que vous avez annoncé dans les derniers jours une collaboration avec le SPVM, donc le service de police de la Ville de Montréal. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui est ressorti de cette collaboration-là?
Ben oui, merci beaucoup de l'intérêt. Effectivement, on a mis en place le projet Haute Secours, Agir autrement, avec le SPVM. Donc, dans le fond, c'est la communion de nos expertises respectives. Nous sommes un centre spécialisé en autisme, donc nous accueillons régulièrement ici là, des élèves, des adultes autistes. Et on avait comme préoccupation aussi là, dans notre mission, effectivement, d'offrir des services à la communauté, mais aussi aux familles. Puis un message qu'on reçoit régulièrement de certaines familles, c'est qu'elles apprécient que les services de sécurité, notamment la police, mais que ça soit adapté aussi, dans le fond, quand il y a une intervention policière à faire. SPVM, c'est un grand partenaire avec nous depuis des années. Nous, on a plein d'initiatives en ce moment qu'on réalise avec eux dans le cadre de la formation, des projets d'immersion, de l'implication dans les comités. Donc, on s'est assis avec le SPVM et ils ont été enchantés puis on a pu déployer le projet. Donc, je ne sais pas si vous avez des détails, mais c'est un projet qui va être déployé dès maintenant aux familles utilisatrices du centre Apadzian. Et on vise un déploiement là, au réseau scolaire de l'île de Montréal dans les prochains mois pour justement là, outiller les familles puis aussi travailler avec le SPVM pour justement offrir des interventions mieux adaptées.
En quelques mots, qu'est-ce qui va changer en fait? Qu'est-ce que ça apporte au niveau de cette collaboration-là? J'ai entendu parler d'un registre, donc le registre des adresses pour les personnes autistes.
Mais en fait, c'est important pour nous, là, on ne vise pas d'avoir un répertoire. Nous, ce qu'on veut, c'est en amont que les familles volontaires oui. inscrivent leur enfant ou, exemple, leur personne qui demeure sur le même domicile. Dans ce RIP, en fait, effectivement, et permettre au SPVM de mentionner les détails importants liés à cette personne-là. Dans le cadre du projet Haute Secours, on va se consacrer à la clientèle autiste qui est domiciliée sur Montréal. Ça, c'est les premiers critères que nous devons appliquer. Ce que ça va changer, effectivement, c'est qu'on vise que la famille se réunisse autour d'un formulaire pour justement expliquer clairement la situation, les préférences, les interventions requises à faire et celles à ne pas faire. Ensuite, ça sera transmis au SPVM qui lui-même inscrira les données dans le répertoire des fiches 911 liées à l'adresse oui. de domicile. Donc, jamais on va lier la personne et on va dire, effectivement, on a tant de personnes autistes sur nombre de pieds carrés du territoire. C'est pas du tout l'intention, puis on s'est assuré que les parties prenantes n'aient pas cette vue-là sur les données. Ensuite, s'il y avait appel au 911, on le sait, des fois, nos personnes autistes qu'on fréquente autour de nous se désorganisent, oui, ont besoin d'assistance. Donc, on vise une intervention beaucoup mieux adaptée en amont. Donc, éviter, exemple, on va donner l'exemple, une personne qui n'aime pas être touchée, qui a vraiment des enjeux au niveau sensoriel, bien, dans le formulaire, ça sera mentionné, ne pas toucher, les sirènes des autos de police, par exemple. Une intervention à plusieurs policiers en même temps dans la même maison, bien, ça peut être très intimidant.
Oui,
c'est quelqu'un qui a vraiment un enjeu. Fait que l'idée, c'est de travailler en amont, avec bienveillance, en douceur, mais aussi à créer un lien avec ces personnes-là et les familles pour pas que ces expériences-là soient traumatisantes non plus et qu'on puisse travailler des services de proximité, communautaires et constructifs.
Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un geste volontaire. Donc, si la famille n'est pas à l'aise avec l'idée de mentionner que quelqu'un d'autiste qui habite sous leur toit pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas obligés de donner information. Ils le donnent si vraiment il semble que c'est un besoin pour eux et que ça va les aider.
Exactement, puis c'est super important de le rappeler, vous le faites bien. On vise une démarche volontaire. C'est un consentement qui peut être retiré en tout temps. OK? Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec des gens volontaires, là, on le dit, là, puis c'est pas un pléonasme non plus. On veut soutenir ça. C'est gratuit. OK? Il faut comprendre que dans d'autres provinces canadiennes, cette démarche-là, elle existe, mais moyennant des frais.
Ah ouais. Okay.
Ouais, ouais, absolument. C'est pas de la tarte, là, justement, parce que nous, c'est un service communautaire. On est en pilote cette année, donc on se donne vraiment une période test ensemble pour évaluer les répercussions. Et nous, en échange, évidemment, on continue notre contribution à former le personnel, former les recrues, offrir des stagiaires du SPVM chez nous pour justement déployer, montrer qu'on est capable d'adapter nos interventions et que ça fonctionne. Et qu'on ait une meilleure clientèle servie au final, puis que tout le monde soit inclus dans cette merveilleuse société. Donc, c'est vraiment un projet collectif qu'on propose en ce moment.
Oui, bien, vous proposez, vous avez dit la formation, puis je pense que c'est une bonne base. Vous n'allez pas ici, même si ils sont pieds de bonne volonté, parfois ne peuvent ne pas avoir la formation ou ne pas avoir les connaissances requises pour bien approcher quelqu'un qui a qui vit avec l'autisme et peut faire des faux pas parce qu'ils ne savent pas approcher ces gens-là. Donc, la formation d'un côté permet de mieux connaître cette clientèle-là. Et vous l'avez bien dit aussi, ça permet donc aux personnes qui vivent sous le toit avec une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme d'avoir des interventions peut-être mieux adaptées et plus en douceur dans le but finalement que, ben, vous l'avez dit, qu'il n'y ait pas de traumatisme. Puis que les interventions se passent bien pour tout le monde, là.
Bien, c'est exact. Vous le résumez bien. Effectivement, la formation, l'accompagnement, le coaching, le soutien, puis aussi, nous, on s'engage, là, dans le fond, dans une perspective là-dedans avec le SPVM. Et notre vœu, évidemment, notre chef de police nous l'a très bien dit lors du lancement, la volonté, le vœu qu'on caresse là-dedans, c'est que ça se déploie vers d'autres instances. Je pense spontanément aux ambulanciers,
oui.
Aux pompiers, par exemple. Okay? Il fallait choisir un créneau pour l'instant, mais c'est effectivement, on parle de la formation, mais on pense aussi à toute la démocratisation de l'autisme dans la société. Nous, notre approche, notre mission, notre vision au centre, c'est de l'inclusion. Ce qu'on dit en faisant ce projet-là ici, c'est qu'on soutient la cause, mais en même temps, nous, on dit incluons ces personnes-là dans notre société. Tout le monde a sa place et il faut adapter nos interventions. On ne parle pas d'accommodement ici, on parle d'adaptation.
Pouvez-vous nous expliquer, pour vous, c'est quoi la différence entre l'accommodement et une adaptation dans un cas comme celui-là?
Je vais vous donner un exemple. On va y aller à plus haut terme. OK? Exemple, une personne qui est non oralisante. Donc, on dit une personne qui est non verbale.
Oui.
OK? On le sait, il y a des personnes qui n'ont pas la parole verbale acquise et que ça va demeurer un enjeu toute leur vie. Mais nous, ce qu'on vient en adaptation, c'est qu'on va soutenir, exemple, peut-être la présence de pictogrammes, des gestes, des images, des référents visuels qui seront connus en amont dans la famille, justement, pour amener de la stabilité, amener quelque chose de prédictif aussi, puis une routine. La différence peut-être avec une adaptation versus un accommodement, mais l'accommodement serait peut-être de créer une mesure juste pour cette personne-là.
Oui, je comprends.
Puis juste, donc, on y vise beaucoup, on est beaucoup plus dans une approche d'inclusion. Ça, c'est vraiment important, puis c'est notre leitmotiv ici, là, c'est notre marque de commerce.
Et quel sera votre rôle? Vous avez parlé, bien sûr, de la formation. Vous faites de la formation, vous êtes responsable de ce volet-là. Mais au niveau donc du registre des adresses et du nouveau de cette nouvelle collaboration-là, votre rôle à Pagea, c'est avec lequel?
En fait, nous, notre premier mandat dans le projet, c'est effectivement d'administrer le formulaire. Donc, de le déployer, de le diffuser et de valider les données avant de les envoyer au service de police.
Oui.
OK, pour s'assurer que tous les champs soient complets, que ça soit lisible, compréhensible, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Mais oui, la formation, le maintien du formulaire, le déploiement du formulaire, c'est-à-dire qu'on vise d'autres créneaux, par exemple, d'autres écoles sur l'île de Montréal, les associations éventuellement. Donc, nous, notre rôle, c'est un agent multiplicateur. Donc, ce qu'on veut en ce moment, c'est que le projet roule bien, il soit rodé, et qu'après ça, on soit en mesure là, de l'expandre, de l'exporter au sein de d'autres réseaux. Là.
Et pour les gens là, qui seraient intéressés, qui se sentent interpellés, est-ce que c'est le moment de vous contacter pour être dans le registre ou c'est encore trop tôt?
Bien, pour l'instant, on va limiter le déploiement aux familles du centre d'autisme à Pagea. Donc, les familles qui fréquentent nos services, bien, il n'y a pas de problème. Pour les deux, trois prochains mois, là, puis on s'est fait vraiment un échéancier interne avec le service de police, rapidement, et on s'engage, nous, à diffuser. Notre deuxième créneau, ce sera, on va se limiter aux réseaux scolaires pour l'instant, parce qu'on reste aussi dans nos champs. Mais là, c'est de voir aussi comment on va mobiliser ces écoles-là aussi pour qu'on soit capable de déléguer des rôles. Et ensuite, je vous le promets, puis on est vraiment touché par cette vision-là, là, c'est vraiment notre futur créneau, ça sera les associations, les autres réseaux qui soutiennent la cause de l'autisme. Puis là, on va dans l'autisme, mais ça pourrait être toutes les déficiences intellectuelles.
Oui, ça pourrait être d'autres clientèles.
Absolument, des personnes malentendantes, des personnes non-voyantes, etc. Donc, c'est infini les possibilités. Mais en même temps, il faut nous fournir de la formation. Donc, nous, on spécialise en autisme ici.
Oui,
mais on est ouvert éventuellement à discuter de la possibilité à développer des créneaux avec d'autres associations, réseaux qui ont une expertise complémentaire.
Donc, on invite les gens à ne pas vous appeler concernant ce registre-là. Par contre, s'ils sont intéressés par vos services, s'ils veulent en savoir plus sur ce que vous faites en 2026 à Pagea, où est-ce qu'ils peuvent avoir de l'information sur votre organisme?
Ben oui, ça fait un peu bête de dire on invite les gens à ne pas nous écrire, là, mais au contraire.
C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit.
C'est très, je le sais, mais c'est correct. Évidemment, on est sur Facebook. On est très présent sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook. On s'assure de déployer, de diffuser nos nouvelles aussi, tant du centre ici que de la cause, hein, des associations, au niveau de la recherche. On s'assure d'être un leader de notre côté en matière de soins, d'accompagnement, tant de la personne autiste que de ses familles. Facebook, c'est un bon moyen, effectivement, de nous suivre.
Parce que je disais, là, à la blague, bien sûr, mais il est trop tôt pour s'enregistrer sur le registre, donc il n'y a pas besoin de vous appeler pour un moment pour s'enregistrer sur le registre. Par contre, on peut toujours vous joindre là, si jamais on a besoin de services et pour connaître un peu mieux votre organisme et ce que vous faites principalement dans la région de Montréal. Donc, merci d'avoir été avec nous. Puis, vous l'avez dit, vous restez joignable par les réseaux sociaux et sur Internet pour le reste. Pour ce qui est de vos autres projets, à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois? Est-ce que vous avez d'autres projets qui vont être mis d'avant? Vous vous concentrez principalement là, sur le registre avec la collaboration avec SPVM?
Bien, en fait, C'est une bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Nous, on est une école. On accueille environ 135 élèves ici, âgés de 4 à 21 ans. On offre également des services éducatifs à un pilier adulte, donc 21 ans et plus. Mais on a un projet là, qu'on est en train de déployer, un autre, qui vise de l'employabilité de personnes adultes dans l'hôtellerie, dans l'industrie du tourisme en hôtellerie, dans les hôtels Fairmont du Canada.
Oh, quand
donc,
même.
On va couvrir de Vancouver à Montréal, passant par Toronto notamment. Et on vise plusieurs hôtels Fairmont. On est en recrutement en ce moment de futures personnes employées. On vise la neurodiversité, évidemment, là, pas seulement l'autisme. Donc, on s'engage à adapter les postes de travail, à créer de l'accompagnement, puis menant vers des emplois. OK? Donc, nous, ce qu'on veut, au bout de ça, c'est créer de l'emploi. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le sait, hein, je pense que
oui.
Tout le monde le
oui,
dit, c'est pas nouveau. Donc, nous, ce qu'on vient aussi avec cette initiative-là, c'est de dire, regardez, nous, on a une clientèle, puis nos participants, là, je serais bien le dernier à pas les vanter, au contraire, mais ils sont tellement de bons atouts pour l'industrie, des gens fiables, très, très orientés vers la routine, la précision, la rigueur. Donc, ce sont de grands avantages. Puis, on a été capable de cibler des postes en industrie qui sont adaptés à eux. Donc, c'est une approche gagnant-gagnant qu'on veut. Les hôtels Fairmont ont embrassé le projet, puis on est très, très fiers de ça. C'est un projet qui est 100% financé par une initiative fédérale. Donc, ça va permettre de créer de l'emploi, de les amener justement à s'adapter. Et on offre aussi l'accompagnement là-dedans. Donc, j'en appelle vraiment à tout le monde. On est à la recherche de candidats. Donc, dans différentes provinces pancanadiennes, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner là-dedans.
Donc, ce que je comprends, c'est que c'est ouvert à toute personne neurodivergente, même les personnes qui ont des diagnostics un peu plus sévères. Là. Donc, qui ont moyen d'adapter jusqu'à ces personnes-là. Vous allez accueillir tout le monde puis voir en cas par cas là, ce qui est possible.
Bien, pour l'instant, là, c'est sûr que oui, tout à fait. L'approche, c'est une approche d'inclusion. C'est vraiment aussi de créer de l'emploi autrement, donc d'une différente façon. Évidemment, c'est du cas par cas, mais
oui.
Sachez que le projet, nous, ça vient aussi avec une démarche professionnelle. Donc, oui, il y a de l'observation, il y a de l'accompagnement. Tout ça fait partie du modèle d'affaires.
Parfait.
Donc, ils ne seront pas lancés en emploi jour 1. On continue, puis on va être présent tout le long du processus aussi, puis on a vraiment une mesure d'évaluation là-dedans.
Parfait.
Et on veut un emploi durable, à salaire égal. Donc, on n'est pas du tout, là. On veut les mêmes conditions que tout le monde a. On crée des contribuables, on crée des travailleurs. Donc, fièrement, on est là, puis on veut que ça reste.
Vous faites bien de le mentionner, étant donné tous les enjeux qu'il y a eu avec les plateaux de travail. Dans votre cas, il y a vraiment une question d'égalité qui va être mise d'avant. Et ce que j'entends, c'est que j'invite là, toutes les personnes qui se sentent interpellées par le projet, qui pourraient être candidats ou avoir des proches qui sont candidats, à vous contacter. Puis, de prime abord, je ne vous exclue personne, donc ce sera possible de vérifier les possibilités avec ces gens-là en temps réel.
C'est exactement ça. Je pense que vous êtes une bonne ambassadrice. Merci.
On s'appelle. Pour le reste, les gens peuvent aller, vous l'avez dit, sur votre site web, sur les réseaux sociaux, ou vous téléphoner s'ils se sentent interpellés par ce que vous venez de nous expliquer au niveau de ce nouveau projet-là. Puis on vous souhaite bonne chance aussi avec votre collaboration avec SPVM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Mais c'est génial. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.
Au revoir.
Bye-bye.
On est de retour pour le dernier segment de notre émission, la revue de presse. On commence en France, où on parle d'accessibilité numérique, qui est une clé pour l'inclusion et l'égalité des chances au travail. Donc, on parle de l'accessibilité numérique, comme quoi c'est essentiel de rappeler aux entreprises qu'ils ont un rôle clé pour faire progresser l'inclusion professionnelle, et ça passe par l'accessibilité numérique. C'est un levier indispensable pour garantir un espace de travail qui est véritablement inclusif pour les personnes en situation de handicap. On parle donc de plus d'un milliard de personnes, soit 16 % de la population mondiale qui vit avec un handicap. Donc, on parle de plusieurs personnes employées qui peuvent, on vient d'en parler, hein, qui peuvent faire une différence dans la société et qui peuvent apporter beaucoup aux entreprises. Donc, par contre, il y a des écarts de rémunération qui atteignent 21 000 $ annuellement. C'est la différence donc entre les personnes à mobilité réduite ou les personnes en situation de handicap ou sans cierge et les salariés qui n'ont pas d'handicap. Donc, on parle de jusqu'à 21 000 $ annuels. Donc, c'est énorme. En Europe, on parle de 24 % des adultes qui déclarent avoir un handicap. Et en France, il y a des mesures qui doivent être prises par les entreprises. Donc, ils doivent embaucher un certain pourcentage de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Et ce que rappelle, en fait, une étude, c'est de l'European Accessibility Act. Ce que ça dit, en fait, c'est que c'est bien beau d'employer des personnes en situation de handicap, et évidemment, on est pour, mais il faut aussi leur permettre une accessibilité numérique pour leur permettre de bien faire leur travail. Ce que ça veut dire, accessibilité numérique, ben ça veut dire utiliser des sites web qui sont accessibles, donc avec différents outils intégrés pour faciliter donc la lecture des sites web. On parle aussi de taille et de type de police qui sont ajustables. On parle de contraste de couleurs qu'on peut ajuster aussi pour les personnes qui auraient des enjeux visuels. On parle de design, de fonctionnalités qui sont adaptées à différents handicaps également. On parle de sous-titrage ou de texte alternatif pour les images, entre autres, de fonctions de reconnaissance vocale qui fonctionnent sur les sites web et dans les documents qui sont proposés par les entreprises. On parle de PDF accessibles. On parle aussi d'environnements de travail qui sont physiquement accessibles, hein, avec des chaises accessibles, avec des écrans accessibles, des bureaux accessibles. Ça a l'air tout à fait banal, mais si on veut bien intégrer les personnes en situation de handicap, ben, il faut mettre ça de l'avant, et on se rend compte finalement que ça devient difficile là, pour les personnes en situation de handicap de bien faire leur travail parce que cette accessibilité-là n'est pas respectée. Donc, ça, c'est un article qu'on a vu apparaître en France, mais qui peut poser évidemment des questionnements au Québec aussi. Hein, est-ce que d'engager des personnes en situation de handicap, c'est une chose, mais de leur permettre de bien travailler sur les environnements numériques, ça en est une autre. Et c'est très important, évidemment, pour qu'ils soient capables de donner leur plein potentiel et de travailler adéquatement. Revenons au Québec maintenant, où le gouvernement indique reporter le projet de faire des CLSC la porte d'entrée principale pour les aînés. Donc, l'initiative devait initialement être implantée à l'échelle québécoise dès l'automne 2025, et on vient d'apprendre que ce sera de nouveau repoussé. L'objectif était de simplifier l'accès aux services en permettant aux personnes âgées et à leurs proches aidants de trouver à un seul endroit l'ensemble des programmes qui leur sont destinés. Le seul endroit étant donc les CLSC. Pourquoi? Parce qu'on a des CLSC partout au Québec. Hein? On en a dans presque toutes les localités. Donc, en mettant tous les programmes aux CLSC, ben, ça permettait d'avoir une porte d'accès au système pour les personnes aînées et, j'ai envie de dire, les personnes plus vulnérables, ils peuvent aller au CLSC et avoir accès à tous les services. Par contre, je viens de le dire, donc ça a été repoussé par le gouvernement. Donc, la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, a annoncé que le rôle des CLSC, serait bonifié pour devenir un point d'accès principal, mais pour y installer le projet sur la glace, parce que voilà, tout ce qui s'est passé aussi avec le gouvernement qui est en place actuellement, j'imagine que effectivement c'est une des raisons pour lesquelles on a repoussé donc cette mise en place des CLC. On a 6 projets pilotes qui devraient être déployés, qui devaient donc être déployés entre janvier et juin 2025, mais on n'a toujours pas de date de déploiement final de cette initiative-là qui a été mise sur la glace. Donc, on, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de nouvelles de ce côté-là, mais ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, donc les CSC ne verront pas une plus grande un étendue donc de leurs services jusqu'à nouvel ordre. Donc, si on continue au Québec, on a il y a déploiement du dossier numérique, du dossier de santé numérique, donc, est finalement prévu pour mai 2026. Parlons d'un autre dossier qui a été retardé plusieurs fois. Et là, il y a une nouvelle date, c'est mai 2026. Est-ce que ce sera tenu ou pas? On verra. Mais après avoir été reporté en octobre, Santé Québec confirme que le déploiement devrait avoir lieu, donc, 9 mai 2026. Encore une fois, on va commencer par des projets pilotes dans l'ICI IUSSS du nord de l'île de Montréal et de la Mauricie, centre du Québec. Donc, on justifie tout ça par le fait de vouloir réunir les conditions gagnantes et nécessaires à cette transformation. C'est un projet qui s'élève à 307 millions de dollars et ça permettra donc centraliser les dossiers de santé de façon numérique. Évidemment, au niveau des partis d'opposition, on s'inquiète d'avoir un nouveau fiasco à la manière de SAC-CLIC ou d'avoir des nouveaux délais ou des dépassements de coûts. Mais pour l'instant, la nouvelle date qui a été annoncée, c'est effectivement la date du 6 mai en 2026, du 9 mai 2026, pardon. Et je termine en vous disant qu'il y avait une action collective des personnes en situation de handicap contre la STM qui plaidait la discrimination en raison des obstacles rencontrés dans le transport en commun. L'action collective visant la Société de transport de Montréal et les agences responsables des trains de banlieue, ils disaient finalement qu'il n'y avait pas assez d'efforts qui avaient été faits par la STM et les trains de banlieue pour rendre accessible leur réseau et que ça nuisait à l'autonomie, au bien-être des personnes en situation de handicap. Ça avait été intenté par le regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec. Donc, je rappelle qu'il y a une dizaine d'années, hein, on voit que vraiment ça a été long avant qu'on mette une décision dans ce dossier-là. Et la décision finale qui a été donné par le juge, c'est que l'action collective n'était pas acceptée parce que on plaide ici la contrainte excessive selon le tribunal, c'est-à-dire que la STM et les agences de train ont fait ce qu'ils pouvaient avec l'argent et les ressources qui leur étaient données. Donc, ce serait excessif de demander une meilleure accommodation étant donné les circonstances actuelles et que la STM et les autres organismes de transport sont très dépendants des volontés des gouvernements. Donc, pour l'instant, l'action collective a été rejetée par le juge, mais on pourrait aller en appel de cette décision-là au niveau du réplique et des personnes en situation d'handicap. Donc, ce sera à suivre s'il y aura une demande en appel ou non. C'était Sans détour pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine!